Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir au Centre Sèvres, l'Université des Jésuites de Paris, pour notre désormais traditionnelle rencontre des mardis d'éthique publique, une soirée qui sera retransmise sur les ondes de la radio RCF. Je salue tous les auditeurs. Ce mardi, nous ne pouvons évidemment détourner les yeux de la situation en Ukraine et nous verrons comment cette guerre est en train de transformer peut-être durablement l'économie, mais aussi l'ensemble de la politique européenne. Alors c'est Jean-Luc Poutier, que vous connaissez bien, qui introduira et conclura cette soirée. Je le laisse donc commencer avant de vous présenter nos deux invités.
Les massacres commis en Ukraine par l'armée russe vont entraîner de nouvelles représailles de la part de l'Union européenne sous forme de sanctions économiques. Un embargo sur le charbon russe devrait être décidé très vite, en attendant que soit résolu d'une façon ou d'une autre l'épineux problème du gaz. La même question revient. Quelle est l'efficacité de ces sanctions, certes nécessaires? Pour l'instant, elles semblent avoir moins entamé la détermination de Vladimir Poutine que les faiblesses inattendues de son armée. D'où le retour à la question militaire. Quelle forme pourrait prendre un soutien plus ferme aux troupes ukrainiennes? La montée aux extrêmes est-elle inévitable en cas de recours à la force de la part de l'OTAN ou de l'Union européenne? La question finira par se poser face aux exactions de l'ex-armée rouge. Et en arrière-plan, une autre question se pose. Le système de défense occidental s'est-il bien adapté au nouveau rapport de force des puissances? Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé de son côté que la guerre menée par la Russie à l'Ukraine a des conséquences dans 74 pays en développement, touchant au total 1,2 milliard de personnes. Le choc en retour pour les non-belligérants est inévitable. Et même sans mettre en cause la légitimité des sanctions, il conviendrait de s'y préparer. Même si les hostilités devaient cesser bientôt, des récoltes ont été détruites, des circuits d'approvisionnement de toutes sortes coupés. Une crise économique occidentale, cette fois, peut-elle être prévenue? Ces questions sombres peuvent-elles trouver des réponses claires? C'est l'objet de notre rencontre de ce soir.
Et deux invités, donc, pour nous aider à comprendre et à penser ce qui est en train de nous arriver avec cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Christian de Boissieu, professeur émérite d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vice-président du Cercle des économistes. Merci d'être avec nous. Et puis Frédéric Ramel, professeur agrégé des universités, directeur du département de sciences politiques de Sciences Po Paris et auteur d'un livre courageux, La bienveillance dans les relations internationales, c'est publié au CNRS édition. Merci d'être avec nous ce soir également. Alors, pour commencer cette soirée, avant que chacun d'entre vous, vous nous présentiez les conséquences de cette guerre en Europe, je voudrais vous demander comment vous réagissez aux images que nous avons pu découvrir hier de la ville de Boutcha. Près de 400 personnes y auraient été tuées par les forces russes qui abandonnaient la ville. On parle d'exécutions, de tortures, de viols, bref, de crimes de guerre. Alors, est-ce que pour vous, ces massacres, qui demandent encore à être documentés, est-ce que pour vous, ces massacres présentent un tournant dans cette guerre? Christian de Boissieu.
Ça marche? Oh ben, c'est faible, c'est comme moi, la lumière est faible. Bien, bonsoir et merci d'être avec nous. Je suis ravi de participer à ce débat. Si vous voulez, les massacres, ce qui se passe à la lumière de ce qu'on a trouvé dans les villes, dans la banlieue de Kiev, c'est épouvantable. La question que posait Jean-Luc, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Bon, on va durcir les sanctions, j'en parlerai tout à l'heure et c'est une partie du débat. Même si on sait bien que les sanctions économiques sont pas totalement efficaces. Pour l'instant, à défaut de diplomatie efficace, on a recours aux sanctions. Moi, je veux dire, quand j'entends M. Biden, quand j'entends M. Macron ou d'autres dire, bien sûr, ce sont des crimes de guerre, mais dire on va traduire M. Poutine à La Haye devant le tribunal pénal international, ça serait bien, mais je veux dire, je vois pas comment ça va se faire. Ça met du temps, peut-être des années. La Russie est pas membre du dispositif de La Haye. Alors ça met pas Poutine à l'abri des poursuites. Mais j'ai l'impression que on agite cet épouvantail et que il faut, bien sûr qu'il faudrait aussi que les généraux de l'armée russe soient conscients de leur responsabilité par rapport à ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas que le président russe qui est concerné par l'éventuelle poursuite à la haie. Mais pour moi, c'est nécessaire de le dire. Il y a un problème de mise en œuvre, de non-efficacité de ces menaces, de toute façon, qui prendront du temps. Voilà, alors d'ici là, moi je veux dire, quand j'entends le secrétaire général de l'ONU que vous avez cité dire hier, il faudrait nommer une commission indépendante, à quoi sert l'ONU ? Si l'ONU dit, il faut nommer... Alors je sais bien que l'ONU est paralysée, le Conseil de sécurité est paralysé par le veto russe, et peut-être par l'attitude d'autres pays qui aujourd'hui soutiennent la Russie. Mais enfin, on a une vraie défaillance de la gouvernance mondiale, une vraie défaillance de la gouvernance mondiale. Et quand je dis gouvernance mondiale, c'est au sens politique et pas uniquement au sens économique. Je répète, on va nommer une commission indépendante. Mais alors, l'ONU sert à quoi si elle n'est pas capable d'imposer ? Ce qui m'a frappé, je termine là-dessus, par rapport à l'ONU, il y a quand même eu... des décisions, des motions qui ont été votées par l'AG, par l'Assemblée générale de l'ONU. Ce qui est une manière de contourner le veto russe au Conseil de sécurité. Alors, est-ce que, je ne suis pas un spécialiste de droit international public, mais est-ce que l'AG de l'ONU, pour à nouveau contourner le veto russe, ne pourrait pas essayer de faire quelque chose, et par exemple de désigner une commission indépendante rapidement pour, j'allais dire, documenter ce drame? Et je termine en disant que dans ce contexte-là, pour moi, le silence intéressé de la Chine est assourdissant. Je pense que la Chine pourrait jouer un rôle qu'elle ne veut pas jouer. Je pense qu'elle est en train, du point de vue économique et peut-être géopolitique, d'essayer de profiter de cet affrontement entre les Américains, les Européens et la Russie. Et que je trouve ça un peu dommage, mais voilà, chacun défend ses intérêts pour le meilleur et pour le pire. Merci.
Frédéric Ramel, de votre côté, que vous inspirent les tristes derniers événements de cette guerre ?
Tout d'abord, merci de m'accueillir ce soir. Les images que vous évoquez, pour moi, je ne sais pas si c'est un tournant, mais ça confirme un certain nombre de tendances au sein du système international. La première, c'est le rôle du visuel, de l'image, dans le contexte global. On l'a vu pour la guerre du Vietnam, on l'a vu aussi pour la crise des migrants en 2015, où il y a un certain nombre d'images qui ont circulé, qui sont devenues des icônes. Je pense au petit Elan sur une plage de Turquie. Et ces images-là vont avoir le même impact, c'est-à-dire une prise de conscience aussi des exactions de la Russie. Le deuxième élément en termes de tendance, c'est que la CPI est déjà saisie. Donc, du moins, le procureur de la Cour pénale internationale, qu'évoquait Christian de Boissieu il y a un instant, est déjà depuis début mars au travail en cherchant de la documentation. Et c'est ce qu'on appelle l'autosaisine de la Cour pénale internationale qui permet, sur la base de documentation pour le procureur, de proposer d'engager des affaires et qui sera confirmé par la section préliminaire de la Cour. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, la Suède aussi se met en ordre de marche en engageant aussi des poursuites judiciaires parce que son système judiciaire lui permet d'engager aussi des documentations sur des crimes de guerre parce que son système pénal lui permet et qu'il y a toute une série d'acteurs qui vont encore plus travailler à la documentation de ces faits. Et la troisième tendance, j'ai envie de saisir la balle au bond que Christian de Boissieu a lancée il y a un instant sur les défaillances de la gouvernance globale. Et on crie l'ONU ne fait rien, l'ONU ne fait rien. Le président Zelensky était au Conseil de sécurité cet après-midi, en appelant d'ailleurs les membres du Conseil de sécurité à changer, à se réformer ou à se dissoudre. Il y a des procédures. C'est évoqué à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a déjà eu des précédents lorsque le Conseil de sécurité est paralysé en 1950 pour la Corée, aussi pour la mise en place de la première opération de paix en 1956 à Suez, où l'Assemblée générale des Nations Unies a s'est substituée au Conseil de sécurité, qui est la responsabilité principale en matière de sécurité internationale, mais pas forcément exclusive. Alors pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui ? Ben, tout simplement par manque de courage politique. Tout simplement, manque de courage politique. Que ça, un certain nombre d'États n'arrêtent pas, notamment la France, de parler d'une nouvelle alliance pour le multilatéralisme. C'est le moment de prouver qu'ayons le courage politique de mettre en place une opération de paix. Alors oui, il y a un certain nombre d'États qui devront déployer des contingents sur place. Ça veut dire éventuellement mourir sur place. Ça veut dire un courage politique. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas forcément une conditionnalité d'un accord politique entre les partis pour pouvoir s'interposer et mettre en place un cessez-le-feu. Ça veut dire changer de logiciel. Ça veut dire un courage politique d'un certain nombre d'États qui pourraient aller dans cette direction. Mais évidemment... Évidemment, ce qu'on appelle les intérêts définis en termes très classiques, c'est-à-dire en termes relatifs, ce que je perds, l'autre le gagne complètement, on ne perçoit pas du tout le fait qu'on a des intérêts aussi communs à agir de la sorte. Donc nos logiciels sont encore caducs au moment où, en effet, il faudrait peut-être changer.
Frédéric Ramel, quelles sont pour vous les conséquences stratégiques, diplomatiques, militaires de cette guerre pour l'Europe? On entend dire que cette guerre est peut-être l'acte de naissance de l'Europe de la défense. Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Je pense qu'on peut aller dans cette direction, mais en étant assez nuancé. Vous savez, dans les mythes, Europe est une femme séduite par Zeus, et donc elle est l'objet de désirs d'un autre. Or, il me semble qu'aujourd'hui, ce qui se donne à voir, c'est la troisième fois dans l'histoire européenne, la troisième fois que les Européens, l'Union européenne, elle ne peut plus être un objet du désir des autres. Elle doit impérativement se concilier pour réaliser ce qu'elle est dans le monde, c'est-à-dire un laboratoire politique. La première événement, c'était Maastricht, face à la réunification allemande. Obligation, alors... Le traité pour l'Union européenne, on ne parlait pas de défense européenne en termes d'objectifs, hein, de politique publique. Mais c'est la première fois qu'on en parle un peu. On dit, oh, dans le futur, on va en parler. Le deuxième moment, c'était 99, le Kosovo. Ça a été un déclic pour l'Union européenne qui a bien compris qu'elle ne pouvait plus omettre cette défense européenne parce qu'elle était un vassal des États-Unis du point de vue du fonctionnement. Et qu'elle était aussi tributaire des choix américains concernant les options. À l'époque, la diplomatie coercitive, les Américains voulaient aller au Kosovo et l'Europe n'a pas pu faire entendre une autre voix. Et puis aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Mais l'Ukraine qui s'inscrit quand même dans une dynamique depuis 2017 où déjà on parlait d'autonomie stratégique. L'autonomie n'est plus un gros mot depuis 2017. À cause de quoi ? À cause du Brexit. À cause de la politique américaine de Trump. Et de la levée d'un certain nombre de tabous qui, dans le contexte de la guerre en Ukraine, ont pris un autre essor. Alors, moi, je vois trois conséquences à la guerre en Ukraine du point de vue stratégique pour l'Europe. C'est un électrochoc partagé, un virage amorcé et une conversion à nuancer. Électrochoc tout d'abord partagé, parce que les représentations de l'Union européenne en tant qu'acteur international depuis les années 90, mais bon, on peut remonter au-delà, c'était d'être une puissance purement civile, puissance normative, mais certainement pas une puissance politique, stratégique et un tout petit peu diplomatique lorsqu'il s'agit de faire des accords d'associations commerciaux. Donc en dehors du militaire. Et comme le dit Charles Michel dans un article aujourd'hui paru dans le Grand Continent, nous sommes réveillés dans un monde différent le 24 février. Alors ce monde différent, c'est un réveil par rapport à la tragédie d'une guerre qui n'est pas une guerre intra-étatique comme les années 90. C'est une guerre inter-étatique où une grande puissance a violé la charte de San Francisco. C'est pas n'importe quoi. Et donc, face à ce contexte-là, il me semble qu'il y a tout d'abord une unité de perception. On oppose souvent l'Europe de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Là, au-delà des divergences en termes de diagnostic, eh bien, on considère qu'on peut appliquer la clause de défense mutuelle lorsque un des États serait éventuellement agressé par la Russie. On est loin de 2003 où il y avait vraiment un clivage concernant l'intervention militaire en Irak. Là, il y a une convergence de la manière de voir le monde. Le deuxième aspect de cet électrochoc, c'est l'appel à l'autonomie stratégique. qui n'est plus simplement une vue de l'esprit. Alors sur le plan énergétique, je pense que Christian de Boissieu y reviendra largement, mais sur le plan militaire, les clivages entre atlantistes et européanistes se sont levés, et même si en effet les États-Unis et Joe Biden a décidé de renforcer la capacité militaire sur le vieux continent, il y a une présence militaire des Européens en Roumanie, dans les pays baltes, qui prouve que la réassurance, elle est aussi le fait d'États européens. Et puis la neutralité. La neutralité d'un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, aujourd'hui, elle est questionnée. Je pense en particulier à ce qui se passe en Finlande ou en Suède. La deuxième conséquence, c'est le virage qui est amorcé. Et vous avez raison, je vais reprendre les termes de l'amiral Bléjean, qui est le directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne. Il dit « L'Europe de la défense a plus progressé en quelques jours qu'en 30 ans ». Donc ça correspond en effet à ce que vous venez d'évoquer. Alors ce virage, il est triple. Il est financier, capacitaire et opérationnel. Financier, à l'échelle des États, une augmentation des dépenses budgétaires consacrées à la défense. Il n'y a que 8 États qui aboutissent à ce fameux 2% du budget consacré à la défense. Et évidemment, dans ce contexte-là, c'est le cas allemand qui est particulièrement significatif, hein, comme vous le savez tous, avec 100 milliards. Alors 100 milliards pour réformer la Bundeswehr, c'est en fait 80 milliards si on prend les hors-taxes. Et puis la mise en place éventuellement d'un bouclier antimissile d'origine israélienne. C'est un virage majeur. Il faut savoir que dans le début des années 90, on avait peur d'une normalisation de la politique étrangère allemande. Est-ce qu'elle pourrait renouer avec ses spectres anciens ? Et la culture stratégique allemande a toujours été de la retenue. En 2011, au Conseil de sécurité, l'Allemagne s'est abstenue concernant l'intervention militaire en Libye, fondée sur la responsabilité de protéger. Donc là, on est vraiment en présence d'un virage. Capacitaire, c'est le renforcement des capacités des nouveaux espace, enfin une intervention dans les nouveaux espaces, dans le cyber, le spatial, la haute mer, avec des investissements en matière de défense qui devaient être coordonnés. Et puis sur le plan opérationnel, la mise en place de forces d'action rapide de 5000 hommes et la coopération avec l'OTAN et les autres partenaires, c'est quelque chose qui était déjà en germe, hein, et qui est déjà appliqué en partie depuis 2003, la première intervention en République démocratique du Congo, mais c'est confirmé avec cette démarche. Et troisième et dernier point, j'aimerais maintenant nuancer le propos. C'est-à-dire que oui, ce mouvement et ces dynamiques, elles sont là. Mais sur trois points, il me semble qu'il faut être prudent. Tout d'abord, l'instrument financier reste relatif. Ces sommes qui sont consacrées, qui sont annoncées, notamment à Versailles, c'est 8 milliards d'euros, alors qu'on annonçait 200 milliards d'euros, donc l'enveloppe est quand même un peu différente, et c'est surtout un instrument ad hoc, c'est du, pardon de l'anglicisme, un one shot, hein. C'est pas du tout inscrit forcément dans la durée et pas du tout institutionnalisé. Donc y a déjà une première nuance, et puis le cas allemand, il faut aussi que ça se confirme avec un certain nombre de modifications de la loi fondamentale concernant l'endettement. D'autre part, deuxième nuance, c'est sur le plan institutionnel. Alors à Versailles, on n'est pas allé jusqu'à institutionnaliser un conseil des ministres de la Défense et surtout une communautarisation des décisions, c'est-à-dire l'usage de la fameuse majorité qualifiée pour prendre des décisions en matière de défense, qui serait un acte fort sur le plan politique et symbolique concernant justement cette unification européenne. On reste dans l'intergouvernemental, c'est le choix purement des États et qui passe pas forcément par une consultation du Parlement, des parlements nationaux, du Parlement européen. Et puis enfin, une troisième nuance, c'est que est-ce que derrière il y a un renforcement des capacités européennes, notamment sur le plan industriel ? C'est pas encore certain, puisque vous le savez aussi toutes et tous, les premiers choix opérés par les Allemands concernant ces sommes allouées, c'est pour acheter aussi du matériel américain. Donc c'est pas forcément au bénéfice, si vous voulez, de l'industrie européenne. Et donc, pour finir, je dirais qu'il y a incontestablement une dynamique, un renforcement indéniable qu'il faut avoir aussi proportion gardée pour voir dans la durée comment ça va se maintenir. Et pour finir, et vous avez eu la délicatesse d'évoquer mon livre sur la bienveillance, je dirais qu'il faut faire aussi attention dans le monde, dans ce contexte tragique qu'est le nôtre, de ne pas être complètement omnibulé par le retour des guerres entre puissances et uniquement sur le politico-militaire. Oui, c'est important de le prendre en considération. Mais il y a aussi d'autres dimensions qui se donnent à voir, notamment des manières d'être dans le système international fondé sur l'attention à autrui et au milieu. Je pense en particulier à toutes ces dénonciations de l'action russe. 141 États début mars, 140 États 24 mars au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies ont voté contre en dénonçant cette action militaire. Ça prouve que ce qu'on appelle la tempérance stratégique et non pas la démesure, c'est quelque chose qui est considéré comme une forme de civilité aussi entre les États qu'il convient de mentionner. Et puis, toute cette vague de solidarité auprès des vulnérables, 4,2 millions de réfugiés, évidemment avec des enjeux liés à évidemment des différentiels qui apparaissent entre nationalités, donc ne nous leurrons pas non plus sur la portée de ces gestes bienveillants, mais qui nous montrent que dans le système international, il n'y a pas que le mode d'être, qui est, c'est-à-dire utiliser des moyens violents pour imposer ses vues, en plus utiliser des moyens violents en s'asseyant complètement sur les principes de la charte, puisque on va rentrer éventuellement dans le détail, mais la justification juridique de Vladimir Poutine est totalement inadaptée et en dehors même des principes de la charte. Et donc de ne pas être complètement, je dirais, sidéré par ce que nous voyons et en montrant aussi qu'il y a d'autres composantes du système international qui invitent à regarder les choses autrement. Et je pense qu'on est obligé aussi de regarder autrement lorsqu'on va voir les conséquences économiques et sociales de cette guerre, notamment du point de vue des risques d'émeutes, de la faim et de famine au sud, comme le disait Jean-Luc, l'annonce du secrétaire général, et qui font aussi le lit d'autres formes de conflits qui sont tout aussi importants et qui sont de nature sociale et économique au début et qui se traduisent ensuite par des actes violents. Merci.
Je vous remercie d'avoir respecté le timing. Je me tourne vers Christian de Boissieu. Avec vous, nous allons aborder les conséquences économiques d'un événement encore en cours, donc les premières conséquences économiques de cette guerre pour l'Europe, avec peut-être cette première question, est-ce que les Européens peuvent se passer du gaz russe ?
Merci de commencer par une question facile.
Oui.
Non, mais je vais y venir, mais peut-être avant d'y venir, je voudrais dire la chose suivante, parce que quand on est économiste et qu'on parle de taux de croissance, ça fait un peu techno. Moi, je me souviens quand j'avais 30 ans et que je parlais d'investissement et d'épargne, quelqu'un dans la salle m'avait dit « Mais vous oubliez l'homme au sens de l'homme et la femme ». Non, que les choses soient claires, pour moi, la vie, c'est plus important qu'un taux de croissance. Voilà, je dis ça pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur mon discours, même si le taux de croissance peut avoir des conséquences importantes sur nos vies. Bon, alors, ayant dit ça, je vais répondre à votre question à propos des sanctions, si vous voulez bien, mais je pense qu'il faut d'abord que je dise quelques mots des conséquences, j'allais dire macroéconomiques, de ce qui se passe. Même si nous sommes probablement au milieu de ce film dramatique, et moi je me refuse aujourd'hui à tout chiffrage. Je pense qu'il ne faut surtout pas commencer à revoir aujourd'hui les prévisions de croissance pour 2022-2023. C'est trop tôt. Et j'ai beaucoup... Nicolas Bavrez, dans son papier du Figaro hier, disait la récession russe de 2022 va être égale à moins 8. Bon, j'en sais rien. J'imagine que lui non plus. Mais c'est un chiffre provisoire. Donc, je voudrais aborder rapidement trois points. Les conséquences que j'appelle macroéconomiques. Revenir sur les sanctions, au cœur de votre question. Et puis peut-être terminer par... des propos à l'articulation de l'économie et de la géopolitique. Je pense qu'il ne faut pas les séparer. Ça me permettra de rejoindre Frédéric rapidement. Sur les conséquences macroéconomiques, nous sommes peut-être à la veille de ce qu'on appelle une stagflation en Europe et peut-être au-delà de l'Europe, peut-être aux États-Unis. Nous verrons. Qu'est-ce que c'est ? La stagflation, ça veut dire d'abord stag, ça veut dire ralentissement important de la croissance. Et éventuellement, si le ralentissement est tellement important, ça peut devenir une récession, c'est-à-dire une croissance négative. Et puis, flation, c'est relance de l'inflation ou inflation qui s'accélère. Alors, je vais commencer par l'inflation pour dire la chose suivante. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a déclenché le retour de l'inflation. Le retour de l'inflation dans nos économies, par exemple en Europe, et mais aux États-Unis, il est antérieur. il est antérieur, il est lié à la reprise, je dirais pas post-Covid, parce que le Covid n'est pas fini, mais il est clair que l'année 2021 a été une année de reprise après la récession de 2020. Vous vous souvenez, les chiffres français, on a eu plus 7% de croissance en 2021, mais on avait eu moins 8% en 2020. Donc c'est pour ça que quand M. Le Maire dit « Regardez, on a plus 7% en 2021 », je nuance en disant « Quand vous êtes au fond de la piscine, c'est assez normal de rebondir ». Bon, et donc la croissance de 2021 était essentiellement une croissance de rattrapage après la grande crise de 2020, première année du Covid. L'inflation a commencé à accélérer avant l'Ukraine et ce rebond de l'inflation est accentué par la guerre en Ukraine. Voilà la thèse que je défends. Si vous voulez, avant l'Ukraine, je pensais encore que l'inflation dans nos pays serait une sorte de bosse au cours de l'année 2022 et qu'au deuxième semestre 2022, ça retomberait. Aujourd'hui, j'y crois plus, compte tenu des événements. Il y a deux aspects dans ce processus inflationniste, deux composantes importantes. Les prix de l'énergie, pétrole, gaz, etc. Et puis, le point qu'a évoqué Frédéric, les prix alimentaires. Je vais vous dire, là, je rejoins Frédéric parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'explosion des prix alimentaires. Je veux dire, il y a des gens qui vont mourir de l'explosion des prix alimentaires. Je suis pas sûr, heureusement, qu'il y ait beaucoup de gens qui vont mourir de l'augmentation des prix du pétrole. Faut pas se tromper. Pourquoi, malheureusement, il y a des gens qui sont en danger du fait de l'explosion des prix alimentaires ? Pour des raisons de famine de la faim qui arrive en Égypte, dans les pays du Maghreb et d'autres pays africains, Afrique subsaharienne et puis d'autres régions du monde. Et je pense qu'il risque d'y avoir ce qu'il y a eu en 2008, des émeutes de la faim. Et donc ça, c'est un sujet central. Les gouvernements font tout pour essayer de... pour les consommateurs, de réduire un peu la facture pétrolière et gazière, surtout pétrolière en France, 18 centimes. Pour l'instant, ma connaissance, on n'a pas fait grand-chose pour lutter contre l'explosion des prix alimentaires, qui me paraît, sur le plan politique, sur le plan humanitaire, plus importante. Alors, nous sommes dans ce processus. Le taux d'inflation est supérieur à 7% aux États-Unis, en rythme annuel. En France, on va vers 5%. On est à 4,5 aujourd'hui. L'Espagne est à 10% d'inflation au mois de mars sur un an. L'Allemagne est à 7 également. Donc voilà, on est là-dedans. Alors, sur l'aspect stag, c'est-à-dire l'aspect ralentissement récession, je donne pas de chiffrage, mais tout ce qui se passe ralentit la croissance. C'est-à-dire que, pour faire bref, avant la guerre en Ukraine, on pouvait prévoir une croissance française en 2022 autour de plus 4%, après le plus 7% de 2021. Et là encore, dans les plus 4%, il y avait encore du rattrapage par rapport aux conséquences du Covid. Aujourd'hui, j'ose pas dire, j'ai dit que je voulais pas chiffrer, mais je pense qu'il faut probablement enlever peut-être un point, peut-être plus, on verra, on est là-dedans. Et c'est trop tôt pour chiffrer. Alors je termine ce premier point pour dire que face au ralentissement inévitable de la croissance dans les trimestres qui viennent, à l'accélération de l'inflation qui me paraît inévitable, les politiques publiques sont évidemment concernées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques centrales sont dans l'embarras parce que si elles font attention à l'aspect stag, elles ne remontent pas leur taux directeur. Et si elles font attention à l'accélération de l'inflation, elles remontent leur taux directeur. Donc il y a des arbitrages difficiles. La Banque Centrale Européenne, sous la présidence de Mme Lagarde, est prudente. On y reviendra dans le débat si vous le souhaitez. La Réserve fédérale l'est un peu moins pour l'instant, puisqu'elle a commencé à remonter son taux directeur. Et du côté des politiques budgétaires et fiscales, je pense qu'on peut jouer sur le mot en disant le quoi qu'il en coûte associé au Covid est en train de se terminer. Moi, c'est pas du tout ma vision. Le quoi qu'il en coûte est prolongé par les conséquences de la guerre en Ukraine. Alors, Monsieur le Maire, pour le citer encore, a dit, mais il n'a pas appelé ça quoi qu'il en coûte, mais c'est l'étiquette sur le pot de confiture. le contenu du pot de confiture n'a pas changé. On veut dire, les politiques budgétaires et fiscales vont être mises à contribution. Ça veut dire que le moment où on va se poser des problèmes de reprise en main des déficits et de la dette publique, ce moment, il est retardé. Il est retardé par les conséquences de la guerre en Ukraine. Sur mon deuxième point, les sanctions, j'accélère. Elles sont nécessaires et clairement pas suffisantes, vous l'avez dit. Elles sont... Moi, je pense qu'il fallait les prendre. On n'a jamais eu, à ma connaissance, alors je ne sais pas s'il faut faire des comparaisons avec ce qui a été fait vis-à-vis de l'Afrique du Sud à propos de l'apartheid ou de l'Iran, mais on a un niveau de sanctions qui est très élevé et qui va se durcir. Ceci dit, les Russes ont les moyens de contourner en partie ça. Je reviens sur la Chine. La coopération russo-chinoise ou sino-russe va être aussi une manière pour la Russie de contourner un peu les sanctions. Et puis la Russie se tourne vers d'autres pays amis, si je puis dire, amis de la Russie. Il faut durcir. Alors, je pense qu'il faut durcir dans le domaine financier. Et ça rejoint le débat sur les hydrocarbures. On a éliminé des sanctions à l'égard des banques russes, deux grandes banques russes, pour des raisons qu'elles financent les exportations d'hydrocarbures par la Russie. La Sberbank, moi j'ai dirigé pendant 6 ans des missions sur la Russie. Quand j'allais à la Russie, on ne parlait que de la Sberbank, c'est la caisse d'épargne, c'est la première banque russe. Elle n'est pas dans l'exclusion du réseau SWIFT, la Sberbank. Bon, et la banque de Gazprom, pour des raisons évidentes, n'y est pas non plus. Je pense qu'il faut les y mettre. Mais ça rejoint le débat et votre question. Est-ce qu'il faut un embargo sur les importations en provenance de la Russie et sur quelles importations? Donc demain, on va probablement décider au niveau européen un embargo sur les importations de charbon. Le débat, c'est pétrole. Et le débat encore plus compliqué, c'est le gaz. Je vous donne juste un chiffre pour montrer qu'il y a un débat, allemand en Europe là-dessus. Le chiffre... Il est donné partout, mais je vais le rappeler. La consommation de gaz naturel par l'Allemagne provient à 55% de la Russie. 55%. La consommation de gaz naturel par la France provient, si je puis dire, uniquement à concurrence de 20% de la Russie. Il y a cette asymétrie qui est fondamentale, qui fait que les Allemands vont tout faire pour résister à un embargo. Ils vont accepter l'embargo sur le charbon, parce qu'ils ont du charbon, les Allemands, ils ont des centrales à charbon, donc à la limite, pour eux, peu importe, l'embargo sur le charbon, c'est moins important, mais ils ne vont pas accepter facilement l'embargo sur le gaz. Est-ce qu'on a des solutions de substitution si on fait l'embargo? C'est ça la question. Il y a un papier qui est sorti hier du Conseil d'analyse économique qui défend une thèse que je trouve un peu trop optimiste, en montrant que si on fait un embargo total sur les sources énergétiques, en provenance de la Russie, finalement l'impact sur le PIB, sur la croissance française est relativement marginal, et même sur l'Allemagne, ça serait moins important que ce qu'on dit généralement, parce que les entreprises pourraient trouver des solutions de substitution, pas uniquement avec le charbon, avec d'autres voies. Je conteste un peu les conclusions de ce papier, mais le CAE dépend du Premier ministre, je m'en suis occupé pendant quelques années, il y a longtemps. Je pense que ce n'est pas anodin, ce papier du CAE. Ça va dépendre évidemment des élections françaises, et de savoir qui va être président et qui va être Premier ministre dans quelques semaines, mais j'ai l'impression que c'est un message à l'égard du pouvoir politique, ce papier. Je termine par quelques remarques géopolitiques vraiment à la serpe. Première idée, la guerre en Ukraine, les conséquences de la guerre en Ukraine et la transition écologique et énergétique. Parce que ça, c'est un sujet fondamental. Le GIEC a sorti son nouveau rapport hier, qui est assez alarmant quand vous regardez les conclusions. Alors, si vous... Je veux dire, je ne veux pas faire de mauvaise analyse, mais... La montée des prix du pétrole, la montée des énergies fossiles, dont on serait passé de la guerre en Ukraine, c'est ça que je veux dire. Mais la montée du prix des énergies fossiles va dans le sens de la transition écologique et de la remise en cause des énergies fossiles. En même temps, les Allemands vont faire plus de charbon, ce qui n'est pas bon pour le CO2. Donc quand vous étudiez le sujet Ukraine et la transition énergétique écologique, c'est un peu compliqué parce que vous avez des choses qui vont dans les deux sens. Deuxième sujet, sur le rebond de l'Europe, moi je partage un peu. Moi, comme vous tous, je souhaite que ce drame soit l'occasion pour l'Europe de montrer qu'elle existe et de se relancer. Sur l'Europe de la défense, je suis évidemment pour, mais je suis un peu sceptique. Je pense que l'Allemagne a commencé, il y a quelques jours, à dire qu'elle achetait des F-35 américains. Est-ce que c'est ça l'Europe de la défense ? Derrière l'Europe de la défense, vous avez aussi des problèmes industriels, des problèmes de politique industrielle. Alors on m'a donné les bonnes raisons pour expliquer pourquoi l'Europe préférait des avions américains aux rafales français ou autres. Mais enfin, le signal n'est pas très bon derrière les 100 milliards d'euros affichés par l'Allemagne pour les 5 ans qui viennent qu'évoquait Frédéric. Troisième sujet, géopolitique, économique, je reviens sur l'Afrique. La détresse de l'Afrique me paraît un sujet fondamental. Il y a eu des sommets Europe-Afrique avant l'affaire ukrainienne. Je pense que on a raison aujourd'hui de reposer le problème de l'aide et des transferts nord-sud vers l'Afrique. Dernier point, je reviens sur la Chine, parce que je pense que la Chine ne peut pas ne pas être dans le débat qui se pose. J'ai dit tout à l'heure qu'on a l'impression qu'elle regarde la balle de ping-pong qui passe au-dessus du filet. Elle compte les coups. Au fond, est-ce que la Chine ne va pas être le vainqueur sans combattre de ce qui se passe en ce moment ? Merci.
Nous sommes toujours au Centre Sèvres, au cœur d'un mardi d'éthique publique consacré au choc de la guerre en Ukraine et à ses conséquences en Europe. Notre soirée se poursuit également sur RCF avec nos deux invités, l'économiste Christian Deboissieu, que nous venons d'entendre, et le politologue Frédéric Ramel. Frédéric Ramel, je me tourne vers vous, peut-être pour revenir sur la question de l'efficacité des sanctions. Est-ce qu'elles ont déjà fait preuve d'une efficacité dans l'histoire ? Et est-ce que l'Europe dispose d'autres marges de manœuvre pour faire pression sur Vladimir Poutine ?
Alors la littérature à la fois de relations internationales et de sciences politiques sur les sanctions tend à montrer que les sanctions marchent lorsque les deux acteurs sont dans une relation de clientèle ou que les acteurs sont dans une relation d'interdépendance où il est coûteux, où les sanctions sont coûteuses pour en particulier la partie qu'on essaye de contraindre. Donc ça marche en fonction de ces considérations. Donc c'est très ramassé, c'est très concentré sur ce type de situation. Est-ce que ça marche pour le cas que nous vivons aujourd'hui ? Bon, l'histoire va nous le dire, mais je pense que le meilleur rempart, ou en tout cas le plus grand facteur qui explique ou qui tend à contraindre Vladimir Poutine, il est en Ukraine. C'est-à-dire qu'il a progressivement, et c'est peut-être ça aussi qui est compliqué du point de vue même des choix stratégiques, il se heurte à un mur. C'est-à-dire que non seulement on perçoit bien qu'il y a une mobilisation de la société ukrainienne, que le gouvernement ne cède pas et qu'il on ne va pas installer un gouvernement fantoche comme ça en l'espace de 3 secondes, qu'on est déjà maintenant à plusieurs semaines de combat, qu'il est obligé de revoir du coup sa stratégie. Donc je ne dis pas que les sanctions ne jouent pas en l'occurrence, je pense que c'est surtout aussi le rapport de force sur place qui, à un moment donné, exerce aussi une incidence. Donc il y a ces éléments ici à prendre en compte du point de vue purement stratégique. Par ailleurs, toute la difficulté des sanctions, et vous le savez, c'est qu'on cherche à contraindre un acteur politique en affectant en fait la société russe. Et J'entendais aussi dans le paquet de sanctions qui ont été qui est en réaction d'ailleurs à ce qui se à ce que vous évoquiez en commençant cette émission, c'est-à-dire l'atrocité et les massacres qui sont maintenant documentés visuellement aussi. La Pologne a décidé de suspendre ses visas à l'égard des citoyens russes. Donc c'est une forme de sanction aussi, mais est-ce que là on touche pas plus la société que la détermination d'un acteur comme Poutine qui est quand même mu par une espèce de mission historique et il se veut finalement l'artisan d'un événement fondamental à ses yeux, c'est-à-dire de engager une guerre impériale pour protéger l'Empire russe.
Christian Boss, oui, allez-y.
Non, là-dessus, si vous permettez, parce que je... Au fond, il y a une sorte de pari supplémentaire que vient d'évoquer Frédéric derrière les sanctions. C'est l'idée que l'économie russe va s'effondrer. Je l'ai dit un peu, je ne sais pas si moins 8, moins 10. De toute façon, le rouble est en chute libre. Poutine essaye de le faire remonter un peu à nous, en nous demandant de payer nos importations en roubles. Encore faut-il arriver à trouver des roubles. À Paris, vous ne trouvez pas facilement des roubles. Hein. Le rouble n'est pas convertible. Donc c'est bien gentil de nous demander de payer en roubles. Et puis ça, ça va être un rapport de force aussi. Mais je reviens sur la société russe qu'évoquait Frédéric. Au fond, le pari que nous faisons à travers les sanctions, c'est qu'il va y avoir tellement de problèmes économiques et sociaux qu'à un moment donné, la population russe va faire pression sur les dirigeants et que ça obligera le pouvoir politique, Poutine et son gouvernement a modifié leur politique. Premièrement, ça risque de prendre du temps. Et d'ici là, il peut y avoir malheureusement beaucoup de dégâts encore, y compris humains. Deuxièmement, moi, pendant 6 ans, je répète, je suis allé pendant 6 ans, une semaine par mois en Russie, c'était au moment de la transition vers le marché 92-98. Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est la très grande résistance ou résilience de la population russe, y compris par rapport à des situations économiques. C'est-à-dire que même s'il va y avoir une inflation énorme en Russie, chute du rouble, l'inflation domestique va être énorme, les problèmes de pouvoir d'achat vont être considérables, les problèmes de rationnement, ils vont avoir des problèmes de rationnement quantitatif, etc. J'ai le sentiment que la population russe a une sorte, non pas d'habitude, mais de capacité à digérer.
Ça veut dire que les sanctions vont mettre du temps à faire leur effet sur la population ?
Elles vont mettre du temps et le seuil de résistance de la population russe par rapport à la détérioration de leur situation économique et sociale est beaucoup plus forte en Russie que dans nos pays occidentaux. Donc si on dit, voilà, Poutine va plier parce que les conséquences à l'intérieur de la Russie vont être telles que la population russe va se révolter, va je ne sais pas quoi faire, va pousser les gouvernants à modifier leur politique. Ce n'est pas évident. Et dernier point, moi, quand j'arrive à Moscou en 92, pour nous, Européens, Gorbatchev était un grand homme. Et pour mes chauffeurs, les chauffeurs qui nous baladaient et les interprètes, Gorbatchev était un salaud. Pourquoi ? Parce que pour les Russes, Gorbatchev, c'est celui qui a été à l'origine de la dislocation de l'Empire. Pour nous, il a été à l'origine de l'ouverture, de la chute du mur de Berlin, de la perestroïka, etc. Et ça s'est renversé aujourd'hui. C'est-à-dire que les Russes, ils vont beaucoup souffrir des sanctions. Mais est-ce que ça ne va pas être surcompensé par le fait que Poutine apparaît comme l'homme qui restaure l'Empire et l'idée impériale ?
Alors justement, puisque vous évoquez la figure de Poutine, est-ce qu'il y a une logique économique à l'invasion de l'Ukraine par Poutine ?
Et moi, j'ai du mal à faire la psychanalyse ou la psychologie de Poutine. Je ne sais pas, je ne vois pas très bien. Alors si l'Ukraine est un grenier à blé, mais je pense que moi, pour moi, les motifs géopolitiques l'emportent sur les arguments économiques. Je veux dire... L'Ukraine, l'OTAN, tout ça, c'est plus important, je pense, que la question de la capacité économique de l'Ukraine. Je ne crois pas que ça soit le motif principal.
Frédéric Ramel, peut-être qu'on peut revenir sur cette figure de la Chine avec cette image que nous a donnée Christian de Boissieu, du match de ping-pong arbitré par la Chine et qui sortira peut-être vainqueur de toute cette affaire.
Avant de regarder Pékin, j'aimerais revenir justement juste une seconde sur cette question de logique économique, puisque apparemment, avec les effets du changement climatique, la Russie va pouvoir encore augmenter ses capacités de production céréalière. Donc, je ne pense pas que ça soit très intéressant d'avoir aussi le grenier à blé ukrainien. Je pense qu'il y a une construction identitaire, un argument identitaire, et puis une volonté, alors peut-être moins d'ordre stratégique, que moi, j'aurais plutôt tendance à réhabiliter encore plus la variable régime politique. C'est-à-dire que, au-delà éventuellement des arguments, l'humiliation de la Russie depuis les années 90 à travers cette politique occidentale, mais qui s'appuie aussi sur le souffle de liberté qui émane aussi des sociétés de cet espace post-soviétique, il y a un régime autocratique qui a peur de la démocratie. Donc il y a aussi une logique politique purement, à mon sens, explicable en termes de valeurs politiques à cet égard. Alors ça me permet de faire le lien avec la Chine. Pékin qui observe, partage avec la Russie un certain nombre de valeurs justement en termes de critique occidentale, critique de l'Occident. C'est intéressant de voir que les initiatives de la Russie et de la Chine pour l'instant aux Nations Unies sont toutes vouées à l'échec. À chaque fois qu'au Conseil de sécurité, en tout cas ces dernières semaines, la Russie et la Chine proposent des résolutions, ça ne fonctionne pas. Ou à l'Assemblée générale des Nations Unies, le 24 mars dernier, il y avait un autre projet de résolution de l'AG, bon, il y a celle qui a été adoptée et qui est d'inspiration franco-mexicaine, mais il y a aussi une autre initiative mais qui a avorté. Autrement dit, la relation chino-russe traduite à l'échelle du multilatéralisme comme façon de s'opposer aux États, on voit qu'il y a quand même des limites à cela. D'autre part, la Chine est en effet observatrice par rapport à d'autres enjeux qui sont très spécifiques dans sa zone, en particulier Taïwan, même s'il faut faire extrêmement attention, ce n'est pas un équivalent Taïwan de l'Ukraine. On est sur des configurations stratégiques qui sont très différentes. Mais il est clair qu'elle regarde les coûts, elle regarde la capacité qu'a une grande puissance à torpiller un système de règles de droit et avec quelle résistance en face. Donc oui, il y a une forme de guerre sans guerre, un peu à la Sun Tzu. Hein, on laisse les autres c'est tripé, merci Christian, et on tire les marrons du feu à son propre avantage. Donc le tiers en ressort un petit peu grandi, ou du moins averti.
Jean-Luc Poutier.
Attends. J'aurais deux questions à Frédéric Ramel, et sur lesquelles Christian Dubois, je reprends.
Oui.
Oui, j'aurais deux questions à Frédéric Ramel et sur lesquelles sans doute Christian Deboissieu interviendra aussi. La première, c'est ce qui s'est passé, que vous avez évoqué, en Corée en 1950-53. À l'époque, l'équilibre de la terreur existait déjà. Je ne suis pas sûr que les Soviétiques avaient des missiles à longue portée capables d'atteindre les États-Unis. La crise de Cuba a ensuite montré que c'était assez compliqué pour eux. Mais l'ONU a en quelque sorte mandaté les États-Unis pour intervenir en Corée et protéger la Corée du Sud. Bon. Est-ce qu'un schéma semblable est aujourd'hui possible ou pas, puisque vous avez évoqué le manque de courage des Nations Unies, le manque de courage politique? La deuxième question, elle concerne la complaisance, me semble-t-il, incroyable dont Poutine a bénéficié de la part des Occidentaux. Alors, je me référerai là à la Syrie. Bon, la Syrie, pour ceux qui y sont allés, c'est un protectorat, voire une colonie russe. Hein ? Si vous vous promenez dans la région de Latakié, ils ont là une base militaire absolument gigantesque qui menace la sécurité de la Méditerranée. Bon. Et quand Poutine a entrepris de soutenir Assad, puisque c'est le père d'Assad qui a fait venir les Russes en 67, quand Poutine a entrepris de soutenir Assad, on l'a laissé faire, y compris avec l'utilisation d'armes chimiques. Barack Obama n'a pas réussi à imposer une intervention, et donc ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient pour massacrer la population syrienne. Alors d'où vient cette espèce de complaisance dont Poutine a bénéficié depuis une dizaine d'années, y compris dans ses actions les plus terrifiantes? Et puis un dernier point, mais j'y reviendrai en conclusion. Là. Bon.
Oui, Frédéric Ramel.
Merci Jean-Luc. Alors, je vais commencer peut-être par la deuxième question sur la complaisance. Je pense qu'il y a une forme pour les Occidentaux, en particulier peut-être à l'égard des conséquences de l'action russe au Moyen-Orient, qui n'a pas été véritablement prise en considération. En particulier Obama était complètement focalisé sur l'Afghanistan, la guerre par nécessité et non pas la guerre par choix irakienne. Et donc Obama, qui était purement réaliste, on voit qu'à la différence d'autres présidents, il a été un réaliste, mais un réaliste n'est pas forcément un va-t-en-guerre. On voit aussi peut-être les limites lorsqu'on parle de... Tu as évoqué la question des lignes rouges. Quand on les franchit, finalement, il n'y a pas grand-chose derrière. Je pense qu'il y a aussi une inquiétude liée à une nouvelle guerre de haute intensité qui, pourtant, depuis 2008, parce que le contexte financier post-2008 fait qu'on a tendance à considérer qu'il y a une forme d'équivalence entre ce qui se passait pendant l'entre-deux-guerres, post-1929 et la montée des nationalismes. Il y a donc une montée de ces guerres de haute intensité. Et donc oui, il y a eu un laisser-faire qui me semble lié à la politique d'Obama par rapport au Moyen-Orient, qui a été en effet plutôt de tempérer, mais de ne pas... Voilà, de ne pas agir au moment où on pensait qu'il fallait en effet agir par rapport à l'usage des armes chimiques. Sur le deuxième, le premier point, c'est-à-dire la comparaison avec, vraiment la résolution Acheson, c'est-à-dire le fait que l'AG peut se substituer au Conseil de sécurité
En Corée.
En Corée, voilà. Par rapport à ce cas-là. Donc c'était vraiment une situation très particulière où, à un moment donné, les Russes n'étaient pas boycottaient le Conseil de sécurité. Donc c'était assez facile de passer par l'AG. Quoique, j'ouvris quand même une petite parenthèse aussi extrêmement intéressante du point de vue de la procédure au sein du Conseil de sécurité. La Russie n'a pas empêché à ce que le Conseil de sécurité dise « l'AG peut prendre cette résolution ». Autrement dit, ils auraient pu stopper en disant non, l'AG n'est pas compétente. Ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Je ferme ma petite parenthèse. Mais pour revenir aussi à la question de Jean-Luc, qu'est-ce qui pèse aussi dans cette guerre en Ukraine? C'est la place du nucléaire et le fait que ça avait fonctionné déjà en 2014, une forme de sanctuarisation agressive de la Russie qui... détenant l'arme nucléaire, se dit « je peux intervenir donc en conventionnel et les autres ne bougeront pas parce que de toute façon, j'ai l'arme nucléaire ». Donc cette sanctuarisation agressive, elle est très présente dans l'argument de Poutine et dans le raisonnement de Poutine et qui explique aussi, à mon sens, la grande fébrilité ou du moins la tendance à la retenue de la part des pays occidentaux et des membres de l'OTAN pour éviter une forme d'escalade, même s'il faut distinguer dans le nucléaire entre les armes stratégiques et les armes tactiques, où la question des armes tactiques, à un moment donné, peut être employée à partir du moment où la Russie considère que l'Ukraine ferait partie de ses intérêts vitaux. Mais il y a ce phénomène de sanctuarisation agressive qui fait que, automatiquement, il y a une posture de retenue et qui... alors, n'explique pas la complaisance, mais explique les réticences, en tout cas.
Christian de Boissieu, une réaction pour conclure notre rencontre.
Sur le Jean-Luc, sur ta deuxième question, c'est-à-dire, au fond, l'attitude de notre complaisance, que tu appelais notre complaisance par rapport à la Russie, elle a plusieurs raisons. Je pense que il y a aussi... on était proche de la Russie, même de Poutine, si je puis dire. D'abord parce qu'on n'a pas vu arriver Poutine en Ukraine. Très franchement, y compris l'Ukraine elle-même, ils n'ont pas vu arriver Poutine, que je sache. Donc Poutine s'est révélé quand même même si tu parles de la Syrie et des expériences, je pense que l'anti-américanisme nous a poussé un peu vers la Russie. Alors, il y a deux types d'anti-américanisme. Il y a ce que j'appelle l'anti-américanisme un peu primaire, un peu idéologique, et puis il y a celui qui est plus fondé, je veux dire, le discours de Villepin à l'ONU, la dénonciation par la France de la guerre en Irak, etc. Ça avait des fondements, ça. Et ça, ça nous a, je pense qu'il y a eu, cette méfiance réciproque entre les Américains et les Européens, dont les Américains sont en partie responsables. Je trouve que les Américains ont beaucoup délaissé l'Europe. À tout point de vue depuis un certain nombre d'années, et donc dans un contexte où on ne savait plus trop où en était la Chine, on a joué un peu la carte de la Russie. Et pour confirmer ce que tu dis, le fait qu'on a joué la carte de la Russie, depuis 15 ans, les gouvernements allemands n'ont absolument pas réduit leur dépendance énergétique par rapport à la Russie. Ça veut dire que l'Allemagne a fait confiance à la Russie. Que ce soit Merkel ou ses prédécesseurs, les Allemands n'ont pas vu venir ce qui se passe en ce moment. Et alors, il y a la proximité géographique, il y a l'ost politique, il y a tout ce que tu veux. Et je termine en disant que, je ne vais pas citer de nom, mais c'est vrai que si je prends le cas de la France, il y a quand même un certain nombre de... L'ambassade de Russie a quand même été, rue de Grenelle a été... très, très intelligente et très efficace. Hein, ça m'est arrivé une fois de participer, c'était il y a quelques années, c'était bien avant les événements actuels, et je voyais bien le coup de charme que faisait l'ambassadeur de Russie avant l'actuel. Bon, il y a un certain nombre d'intellectuels français qui, jusqu'à la guerre en Ukraine, ont clairement joué le jeu de Poutine. Et, alors, il y a certains qui ont réussi à faire un virage... rapide. Bon, moi je me sens pas concerné parce que j'ai travaillé sur la Russie, comme je l'ai dit, pendant 6 ans, mais j'ai jamais été, je suis jamais rentré dans le coup de charme que pouvait faire la Russie vis-à-vis d'un certain nombre d'intellectuels français. Mais je pense que Jean-Luc, tu as des noms en tête et je vais pas les citer.
On va éviter. Je vais laisser Jean-Luc Poutier conclure cet échange.
Très très brièvement. D'abord, je voudrais faire un rappel historique, même si nous sommes d'accord que l'histoire ne se répète pas. Mais ce que j'ai entendu tout à l'heure à propos du fait que les sanctions devaient pousser en réalité le peuple russe à se révolter contre ses dirigeants, non, c'est ce qu'a été la stratégie de la gauche communiste en Allemagne en 1933, laisser Hitler arriver au pouvoir parce qu'on pensait qu'à ce moment-là, le peuple se soulèverait et que la révolution interviendrait, et que la classe ouvrière pourrait instaurer la dictature du prolétariat. Résultat, les communistes ont été les premiers dans les camps de concentration.
Et Jean-Luc, tu as bien compris que ce n'est pas ma thèse.
Non, mais j'entends bien. Au contraire même, puisque tu as dit que les Russes ne bougeraient pas. Bon. Et cette stratégie, c'était celle aussi des terrorismes de type Brigade Rouge ou Fraction Armée Rouge, ou Action Directe, dans les années 70. Ils voulaient favoriser l'avenue d'un gouvernement autoritaire, en Italie en particulier, dans les pays occidentaux, pour que le peuple se soulève. Alors je pense qu'il serait bon de prendre en compte, encore une fois, même si l'histoire ne se répète pas, ces précédents pour savoir que les sanctions, ça ne suffira pas. Et donc moi, mon interrogation, c'est de savoir à quel moment, compte tenu effectivement de la sanctuarisation nucléaire, qui est quand même le premier problème, nous pourrons éventuellement envoyer des troupes pour aider les Ukrainiens à se défendre face à Poutine. Alors peut-être que ce ne sera pas nécessaire parce qu'il a fait demi-tour là et il va conquérir le Donbass et à partir de là, on va trouver des accommodements, des rectifications de frontières. Mais en tout cas, ça montre bien que dans les rivalités de puissance, l'Occident, depuis 1989, n'a pas encore trouvé la bonne solution et que ce que Frédéric évoquait, c'est-à-dire la guerre de haute intensité qui est revenue un débat d'état-major devrait être sérieusement réfléchi pour les années qui viennent.
Bien voilà, c'est ainsi que s'achèvent ces mardis d'éthique publique consacrés au choc de la guerre en Ukraine et à ses conséquences en Europe. Alors, merci à Christian de Boissieu, merci à Frédéric Ramel, je rappelle votre livre. La bienveillance, on en a besoin. La bienveillance dans les relations internationales, c'est aux éditions du CNRS. Et bien sûr, merci à Jean-Luc Poutier, qui est à l'origine de cette rencontre.
À ce moment du débat, normalement, c'est François Hevé qui prend la parole. Mais François Hevé est à la Sorbonne, où il anime une disputation entre universités. Et donc, je vais essayer, non pas de le remplacer, mais de lui succéder. Donc, nous avons des micros qui peuvent circuler dans la salle. Et l'habitude de François, c'est de prendre les questions 3 par 3. Donc, je vais... adopter cette pratique. Oui, une question là-haut.
Bonsoir, merci de prendre ma question. On a beaucoup évoqué les sanctions au fond d'État à État et des conséquences qu'elles avaient sur la société. Mais il y a aussi un aspect particulier qui est les sanctions ciblées sur des individus qui sont les fameux oligarques proches de Poutine, dont certains sont, semble-t-il, les prête-noms de Poutine pour cacher la fortune qu'il a lui-même dissimulée en Occident. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent certains. Et est-ce que cet aspect-là peut avoir non pas donc, un effet d'attendre que la société se soulève, mais peut-être qu'une classe oligarchique finissent par donner un coup d'épaule pour se débarrasser du type qui devient vraiment très gênant pour leurs intérêts.
Bonjour, merci pour cet excellent exposé très, très documenté qui éclaire parfaitement toute cette crise qui est absolument, absolument fondamentale. Je voudrais juste faire observer deux points. Sur les sanctions économiques, il y a un point important qui a fonctionné dans le passé, c'est l'embargo sur les hautes technologies, qui sont absolument évidemment cruciales pour les armements russes. En particulier, j'ai cru comprendre que leur nouveau char était un petit peu en panne parce qu'il manquait ces technologies. Et ça a marché dans le passé. Il y avait autrefois, du temps de l'Union soviétique, le COCOM. Et donc, ça a obligé les Russes à s'en passer, et d'ailleurs, ils ont essayé de contourner. Donc, il y a ce premier aspect. Mais il y a un aspect qui me paraît beaucoup plus inquiétant. Vous avez soulevé, c'est effectivement cette côté messianique, qui rejoint d'ailleurs par la Chine, parce que si vous remarquez bien, la déclaration conjointe Poutine-Xi Jinping avant les Jeux Olympiques, c'était un nouvel ordre mondial, nouvelle démocratie, remise en question de tout l'ordre occidental. Dans quelle mesure, d'ailleurs, ont-ils intérêt à maintenir l'ONU? On peut se poser ces questions. Donc, c'est un peu cet aspect qui est un peu inquiétant et qui, pour nous, effectivement, peut poser beaucoup de questions. En particulier, je n'attendrai pas sur tout le narratif que les Russes développent à longueur de journées, d'heures, sur lesquels les Russes, d'ailleurs, sont complètement nourris et sont un peu éberlués. Ça rejoint tout à fait la question qui est posée sur... ces atrocités que l'on connaît trop dans les guerres, mais effectivement, cet aspect-là qui est quand même inquiétant.
Une troisième question.
Vous avez parlé du courage politique. Il faut absolument arrêter la guerre. Comment va-t-on faire ça maintenant?
Sur la première question sur les oligarques, je dirais que là la question est de savoir quel est le à la fois dans le processus décisionnel le degré d'influence de ces oligarques dans la capacité à peser en effet sur l'orientation de Poutine et la politique étrangère de Poutine. Il semblerait quelques spécialistes que j'essaye de lire de façon très quotidienne en ce moment de la politique russe semblent montrer qu'il est de plus en plus isolé, qu'il prend ses décisions par lui-même, que d'ailleurs son état-major est un petit peu... il prend vraiment les décisions seul. Donc la question est de savoir... On n'est pas du tout dans la même configuration de l'Union soviétique où on a un bureau politique où on peut jouer sur en effet un petit échiquier et on peut renverser. Là, ça paraît un peu compliqué. En tout cas, voilà, c'est un peu les informations que j'ai. Et donc, du coup, comment on peut traduire l'influence de ces individus oligarques sur... traduire ça en influence sur Vladimir Poutine. Pour l'instant, c'est un peu, l'opération qui est voulue, mais on s'interroge sur sa capacité à être... à causer les effets. Alors, sur la Chine et la Russie et l'Alliance, je dirais... que, en tout cas, en observant la politique multilatérale de la Chine à l'heure actuelle, ou du moins depuis un certain nombre, disons une décennie, la Chine, contrairement à la Russie qui cherche à paralyser, et là depuis le 24 février, à torpiller les Nations Unies, la Chine ne cherche pas cette logique. Elle a une autre logique qui est de prendre le pouvoir dans les institutions spécialisées dans les Nations Unies et à impulser ça. Politique. Et c'est très révélateur à la FAO, par exemple. À la FAO, où la nouvelle politique de l'organisme, c'est la 5G, c'est l'usage des produits phytosanitaires, c'est des débouchés à l'exportation. On se fiche pas mal de la relation entre le propriétaire terrien et l'exploitant. Donc ça torpille complètement les paysans locaux. Et c'est cette conception-là que la Chine veut. Donc produire, une conception très quantitativiste de la conception de l'agriculture. Pour mieux placer, elle, ses propres technologies ou ses propres façons de concevoir, justement, la production dans le domaine. Donc, moi, je serais un peu plus nuancé en considérant qu'on a une nouvelle alliance chino-russe qui va se mettre en place et tout le multilatéralisme va voler en éclats. La Chine n'a pas, en tout cas, à date, cette posture. Et je pense qu'en observant les phénomènes, elle semblait plutôt être sur la retenue. Et enfin, sur le courage politique... Ben, il faut qu'il y ait des individus qui, à la tête du pouvoir, à un moment donné, aient une conscience de la responsabilité et du moment. Pour l'instant, on ne l'a pas. Alors, c'est peut-être appelé à la femme ou à l'homme providentiel, mais à un moment donné, il faut aussi... Il y a une question de courage politique et malheureusement, nos leaders ont plus de courage pour gagner des élections que pour orienter autrement l'évolution du monde.
Le courage politique, vous dites, on ne l'a pas en ce moment, on l'a peut-être du côté de l'Ukraine ?
C'est exact. On a en tout cas un président qui, ancien acteur, joue parfaitement son rôle de président et qui contribue. Alors après, il y a des discussions autour de sa... Bon, je ne vais pas rentrer dans la controverse, mais... En tout cas, oui, là, il y a un exemple de courage politique qui est flagrant et qui montre qu'il y a, des personnalités politiques qui peuvent être inspirantes, en tout cas.
Quelques mots sur les oligarques. Moi, je constate que jusqu'à présent, c'est plutôt Poutine qui a maté les oligarques que l'inverse. Il en a mis en prison certains. Comme tu le sais, Sophie, il a essayé d'en empoisonner d'autres. Et même le patron du club Chelsea a dit qu'il avait peut-être, enfin on n'en sait rien, été empoisonné autour de la table quand il y avait cette rencontre entre les Russes et les Ukrainiens. Donc, ça serait assez confort, c'est parce que je ne te traite pas d'être confortable, je dis simplement ça serait confort de se dire, voilà, ils vont finir par l'avoir. Mais il tient tellement le système que est-ce que c'est un problème de seuil ? Est-ce qu'il faudra qu'il y ait un certain nombre d'oligarques ou d'importance pour que son régime, que lui-même soit fragilisé ? Moi, je suis assez sceptique. Et puis, alors on saisit les bateaux. Et puis, quand ils sont malins, les oligarques emmènent leurs bateaux à Dubaï. Et puis, ils ont l'air en sécurité à Dubaï, les bateaux russes, les bateaux des oligarques. Donc... pour moi, c'est plutôt de l'effet de démonstration pour l'instant. Alors, la démonstration, c'est important. L'effet d'annonce, c'est important. Mais sur Quelques mots sur, puisque j'avais ouvert le débat sur Russie et Chine, l'alliance actuelle, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, Frédéric, tu ne l'as pas appelé comme ça, mais disons la convergence d'intérêts, je l'appelle comme ça, me paraît assez circonstancielle. Et je pense que c'est fragile, mais que nous, Européens, on a peut-être une carte à jouer, qu'on ne joue pas aujourd'hui, c'est exploiter cette fragilité. Je ne suis pas sûr qu'en ce moment, alors on a d'autres choses à faire, entre la fin du Covid et la guerre en Ukraine, l'Europe est occupée par d'autres choses que de faire risette à la Chine, mais il y a peut-être une carte à jouer là-dessus. Et moi, je suis frappé effectivement que la Chine, elle veut une reconnaissance mondiale. Je vous donne un aspect qui paraît technique, mais qui est politique. C'est que les Chinois se sont battus pour que leur monnaie, le yuan, rentre dans ce qu'on appelle le droit de tirage spécial, les DTS, soit la cinquième monnaie prise en compte dans les DTS, dans le cadre du FMI en particulier. Et là, pour eux, c'était très important, alors que moi, je vais voir mon banquier à Paris, je ne peux pas avoir deux yuan. Le yuan, il n'est pas convertible, il est comme l'euro, ils sont deux monnaies qui ne sont pas convertibles. Mais avant même que leur monnaie soit convertible, les Chinois ont voulu une reconnaissance monétaire internationale, voilà, que Mme Lagarde, quand elle était directrice générale du FMI, leur a donné. Et puis, ils veulent la direction générale du FMI, ils ont le numéro 2, je crois, aujourd'hui. On est dans un contexte où le multilatéral ne marche pas très bien et le bilatéral donne ce qu'on sait. Donc, je parlais tout à l'heure de gouvernance mondiale. Est-ce que le G20, parenthèse, a dit quelque chose sur la guerre en Ukraine ? Zéro. Est-ce que le G20... Alors, regardez même, moi j'ai été... Je trouve que l'OMS a été très très faible par rapport au Covid. A été suiveuse, l'OMS. On a un système d'organismes internationaux, mais ça, c'est pas de la faute des organismes internationaux, c'est la faute de leurs actionnaires, entre guillemets, c'est-à-dire les États qui sont derrière, qui font que la gouvernance mondiale est vraiment, j'allais dire, nulle part en ce moment. Et donc, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a ce risque de développement, monsieur, de ce que vous disiez, le sino-russe tout à l'heure. Mais en même temps, compte tenu de l'histoire, je veux dire, pendant des années, la Russie et la Chine ne pouvaient pas s'encadrer, si je puis dire. Bon, ils ont aussi quand même des intérêts divergents. Et donc, c'est pour ça que je dis, je crois que cette entente, alors, elle est peut-être sur notre dos, hein, mais cette entente, elle est de circonstance, à nous d'exploiter cette fragilité sino-russe.
Avant de reprendre une série de questions, il y avait une question sur les hautes technologies, sur les transferts de technologies.
Je dis quelques mots là, sans monopole, cher Frédéric. Je pense que c'est une voie... Je pense que, à la limite... c'est une bonne voie, sauf si, alors, on retrouve les relations entre la Russie et la Chine, parce que si on interdit, on fait l'embargo sur nos technologies, et que dans le même temps, les Chinois s'organisent pour transférer, je veux dire, sur pas mal de sujets, la Chine est sur ce qu'on appelle la frontière technologique. Moi, il y a quelques années, j'essaye d'être concret, il y a quelques années, j'étais au conseil scientifique d'Areva. Il y a longtemps, il y a 10-15 ans. Et je me souviens, il y a 10 ans, la présidente de l'époque, revenant d'un voyage en Chine, disait, je considère, moi, patronne d'Areva, qu'en matière de nucléaire, d'EPR, les Chinois, ils ont beau acheter nos EPR, ils sont sur la frontière technologique. Et ils nous ont rattrapés sur le plan technologique. Donc, notre embargo sur les hautes technologies... n'a de sens que s'il n'est pas contourné par la capacité qu'a la Russie de se tourner vers son est, vers la Chine. Oui, d'accord. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas tellement d'embargo à leur faire parce qu'on en manque nous-mêmes. D'accord. Et nous, on en a aussi besoin, comme vous le savez, c'est un goulet d'étranglement.
Nous prenons une deuxième série de questions. Alors, madame, là, au centre.
Bonsoir. Je reviens là sur ce que vous avez évoqué et qui est une découverte pour moi. Je ne suis pas du tout une sachante sur ça. Mais justement, l'histoire de l'Assemblée générale de l'ONU par rapport au Conseil de sécurité et de la fenêtre qui existe peut-être là pour que l'ONU, par le biais de l'Assemblée générale, pourrait s'engager, les pays qu'ils souhaiteraient pourraient s'engager militairement en Ukraine. J'ai jamais entendu ça et j'aimerais comprendre un peu mieux en quoi c'est peut-être possible. Parce que aussi la question de madame, mais alors on fait quoi puisque les sanctions ne marchent pas?
Un petit peu plus haut, un peu plus haut, la dame avec un gilet bordeaux.
Est-ce que vous pensez, on n'a pas abordé le sujet aujourd'hui, mais on l'a abordé le mois précédent, sur le monde orthodoxe. Est-ce que vous pensez que la population russe peut réagir et secouer un petit peu le monde orthodoxe et quel est le rôle du patriarche Cyril qui, pour l'instant, est sous les ordres de Poutine? Et autre question, quel est le rôle des cyberattaques dans cette guerre?
Une troisième question. Je ne vois pas de main se lever. Bien, alors nous prenons ces deux questions.
J'ai commencé par les cyberattaques. La Russie est considérée dans le système international actuel comme la puissance qui maîtrise parfaitement ce qu'on appelle la guerre dite hybride, c'est-à-dire à la fois des guerres en conventionnel, des forces conventionnelles et aussi des moyens stratégiques dits non conventionnels, c'est-à-dire des guerres de contournement, guérilla, etc., dont fait partie justement la dimension numérique que vous évoquez. La Russie l'a déjà fait pour la Géorgie, elle l'a déjà fait sur d'autres théâtres, elle le fait aussi en essayant d'affecter et de paralyser les systèmes du gouvernement et les systèmes technologiques de l'Ukraine. Donc là, il y a une continuité, il n'y a pas quelque chose de neuf dans la manière de faire la guerre pour la Russie. Sur l'orthodoxie, alors je ne sais pas si vous, je crois que votre dernière séance avec
Cathy Rousselet.
Voilà, avec Cathy Rousselet, je pense, est une spécialiste du religieux dans l'espace post-soviétique, donc elle a dû évidemment évoquer cela. Donc moi je vois ça en tant qu'internationaliste. Il y a une instrumentalisation de ces valeurs, alors plus ou moins crues par Poutine, j'en sais rien, mais en tout cas il y a une instrumentalisation. Quel est le rôle, votre question c'est quelle est la part que peut avoir cette fois-ci dans la société russe les orthodoxes, parce que l'institution là elle est carrément en fait sous ordre. Il faut regarder aussi les différentes lois qui ont été adoptées par la Douma concernant la liberté d'expression, où on voit que ça se heurte immédiatement à des limites. Qu'on soit orthodoxe ou pas, la capacité des individus russes ordinaires à pouvoir se lever, y compris au nom de valeurs hautes, de valeurs spirituelles, me paraît extrêmement compliqué. Alors, on parlait de courage politique à l'échelle des dirigeants, il y a aussi des courageux au sein même des sociétés qui ont manifesté pour le, il y a des pacifistes aussi en Russie, mais voilà, on se heurte aux contraintes qui sont celles de l'arsenal aujourd'hui législatif qui fait que Poutine a complètement verrouillé la liberté d'expression. Donc là, l'orthodoxie ou ces valeurs-là, elles sont difficilement mobilisables lorsque vous n'avez pas la possibilité dans l'espace public de pouvoir vous exprimer. Enfin, sur l'AG des Nations Unies, deux précisions. La première, de toute façon, même dans le cas irakien où il y a eu une intervention qui n'a pas été autorisée par le Conseil de sécurité, au bout d'un moment, les Nations Unies sont revenues après le conflit. De toute façon, les Nations Unies vont revenir. Il me semble, c'est indéniable. Bon. Donc, a posteriori, elles vont revenir. Là, ce que j'ouvre comme discussion, c'est qu'en amont, pourquoi ne pas profiter de cette fenêtre d'opportunité pour asseoir encore plus l'AG des Nations Unies. Donc il y a une question de légitimité, parce que c'est quand même le Parlement. Alors ok, c'est que des représentants d'État, il n'y a pas de représentants de la société dite civile, donc il y a une forme de légitimité. Et la deuxième chose, dans la controverse qu'on a essayé d'ailleurs avec mon collègue et ami Guillaume Devin dans un article qui a été publié dans Le Soir il y a maintenant 2 semaines, c'était de dire on n'a pas forcément besoin d'un accord politique entre les deux parties pour pouvoir dépêcher sur place une opération de paix. Mais là, ça serait une innovation, ça serait un précédent. Il faut bien voir aussi les choses ainsi. Ça serait un précédent. Mais s'il y a une majorité d'États qui veut aller dans cette direction, et surtout après, aligner des contingents, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, donc il faut qu'il y ait des contingents qui puissent le faire. Donc c'est là, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la question du courage politique. Un certain nombre d'États pendant la guerre froide, et notamment en 1956, le Canada a été extrêmement impliqué pour justement... d'ailleurs, les casques bleus, ça vient de là. Hein, c'est parce que initialement c'était des bérets bleus qui n'ont pas, qui ont pas été fournis. Donc, c'est les soldats sur place qui ont peint leur casque en bleu. Donc, il y a une forme d'initiative. Mais il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est assez iconoclaste, ce que je dis. Hein. Iconoclaste parce que c'est plus le Conseil de sécurité qui, pour l'instant, depuis 1945, est le garant de la sécurité internationale. Ça veut dire que l'AG des Nations Unies, l'Assemblée générale, prendrait ce rôle. Donc évidemment, on change complètement de perspective. Et ça fait peur. Ou du moins, non, c'est pas possible.
Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, non? Non, mais je veux dire, dans les entreprises, le mouvement actuel, c'est que l'AG reprend le pouvoir. En droit des sociétés, c'est l'AG des actionnaires qui a le pouvoir. Et les AG sont beaucoup plus actives par rapport au conseil d'administration. Elles remettent en cause les conseils. Je fais cette comparaison parce que le problème, il est un peu le même. Il faut que l'AG reprenne le pouvoir et contourne le veto, en l'occurrence. Alors, par rapport à ce débat qui est politique, à mon avis, qui est sans doute l'interprétation de la charte de l'ONU, mais l'interprétation de la charte, elle n'est pas uniquement juridique, elle est politique. Je pense que l'Afrique peut jouer un rôle important, parce qu'elle joue un rôle important dans le cadre de l'AG. Il y a quand même 55 pays qui sont membres de l'Union africaine aujourd'hui. Et le débat qu'on a, si on dit l'Afrique peut essayer peut-être d'aider à trouver une solution qui passe par l'AG, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même, j'allais dire malheureusement, par rapport à notre sujet, il y a un certain nombre de pays africains qui sont très proches de la Russie, y compris parce que les mercenaires Wagner sont chez eux. Regardez ce qui s'est passé au Mali récemment. Et donc, l'Afrique n'est pas uniforme sur cette question. Et la Russie peut être tentée de jouer un peu le jeu des alliances avec certains pays africains. Deuxième point sur lequel je voulais dire quelques mots sans en avoir le dernier. Bon, rassurez-vous. Sur la cyberattaque, la cyberdéfense, les Russes sont très bons, mais il faut qu'on soit aussi bons. Si possible meilleur. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a 10 jours, il y a 15 jours, je ne sais plus quand, on nous disait les Russes vont nous couper Internet. Vous vous souvenez de ça a circulé. Bon, alors moi je suis comme tout le monde, je fais un peu d'Internet, mais je ne suis pas un grand spécialiste du net. Et je me disais, ils peuvent couper les tuyaux. Enfin, comment ça va se faire? Est-ce qu'ils ont cette capacité sur ce problème de cyber? Défense, cyberattaque, etc. Je pense que voilà un sujet pour l'Europe de la défense. Voilà un sujet pour l'Europe de la défense qui me paraît peut-être plus solide que d'autres aspects dont on parle peut-être plus à propos de l'Europe de la défense. Voilà. Merci.
Si je peux me permettre un mot à propos de votre question sur l'orthodoxie, je ne sais pas si Cathy Rousselet serait d'accord avec ce que je vais dire, mais la preuve, à contrario, que la société russe sur ce plan ne bouge pas beaucoup, c'est elle est donnée par le pape actuel. C'est-à-dire que, puisque nous sommes dans une maison, nous sommes les hôtes d'une compagnie qui fait peu d'obéissance au pape et qu'il en est lui-même issu,
Eh bien, le pape François avait entamé très vite un rapprochement avec l'Église orthodoxe russe, probablement parce que il y a beaucoup d'orthodoxes en Argentine, qui sont des orthodoxes venus des pays du Proche-Orient, de Syrie notamment, et d'autre part parce que ça reste quand même pour l'Église catholique un objectif. Le rapprochement avec Moscou, c'est la seule grande capitale où un pape ne soit jamais allé en visite depuis une cinquantaine d'années. Et le pape a rencontré le patriarche Kirill à Cuba, et donc il y a eu un premier entretien, un premier contact entre eux. Et là, au moment du déclenchement de la guerre, le pape est allé à l'ambassade de Russie à Rome. Bon, je ne sais pas quel a été l'objet de l'entretien. Et ensuite, plusieurs commentateurs, notamment la spécialiste des questions religieuses du Monde, a dit finalement il se montre assez bienveillant à l'égard de la Russie. Peut-être parce qu'il espérait justement que dans la spiritualité orthodoxe, il y aurait des ressorts pour faire réagir la population sur cette agression contre un autre pays orthodoxe, puisque les Russes voient l'Ukraine essentiellement comme un pays orthodoxe et les catholiques uniates comme des usurpateurs. Bon. Et ça ne s'est pas produit. Et là, récemment, il annonçait qu'il allait peut-être se rendre en Ukraine. Donc on voit bien dans l'évolution de son attitude que l'attente qui avait peut-être pu exister de voir l'orthodoxie russe réagir contre cette guerre fratricide sur ce plan n'a pas été comblée et que désormais, peut-être que le pape ira prendre vraiment parti pour les Ukrainiens contre la Russie, ce qui serait un tournant sans doute dans une des grandes lignes de sa politique étrangère. Je vous renvoie sur tout ça un article paru dans la revue Études de ce mois-ci, même si François Bébé est absent, sur la diplomatie du Saint-Siège. Voilà. Nous avons encore le temps de prendre une question. Alors, il y en aura trois. Il y en aura trois.
Je ne suis pas sûre que ça soit fondamentalement dans le sujet, mais vous l'avez quand même évoqué. Les conséquences écologiques de cette guerre en Ukraine, et vous avez parlé des conclusions désastreuses du GIEC. Qu'en est-il ?
Il y avait une question d'Henri Lot, ici.
Non, ça va peut-être faire un petit peu réchauffer sur certains sujets, mais j'ai deux observations. Une première sur la Chine. On pourrait s'attendre à ce que ce qui intéresse la Chine, c'est une certaine stabilité. La Chine souhaite faire du commerce aussi. Et ce qui se passe en ce moment, ça fait désordre. Et ça n'aide pas tellement dans ce sens-là, quoi. Mais alors, mon deuxième point, c'est, on y a fait allusion d'une autre manière, c'est le combat de l'opinion publique. Parce qu'un élément clé dans les conflits, c'est l'opinion publique. Et on sait bien la situation en Russie, le manque de liberté de presse, d'information, l'arrestation des opposants, etc., etc. On a des sondages qui, évidemment, nous disent à quel point l'opinion publique est favorable au régime. Enfin, on sait bien quelle valeur leur accorder aussi. Voilà, c'est de quels moyens pourrait-on disposer aujourd'hui pour que quelque chose prenne dans l'opinion publique et que de l'information puisse circuler. Comment est-il possible que de l'information circule aujourd'hui ? Il y a les réseaux sociaux, mais on sait aussi à quel point on peut les contrôler, les affaiblir, etc., etc.
Alors une dernière question. La toute dernière.
C'est moins une question qu'une petite remarque sur l'orthodoxie russe. L'Église orthodoxe n'est pas vraiment mue par une société qui va aller démocratiquement la confronter en lui disant que faites-vous, etc. Même si c'était possible, la loi ne s'abattait pas sur les contrevenants, c'est pas la tradition de l'Église orthodoxe qui est extrêmement verticale. Et dans ce sens-là, du haut vers le bas, et pas du tout une église de débat des grandes questions démocratiques. C'est vraiment que des questions liturgiques, des questions éventuellement culturelles. Mais on peut imaginer qu'il y ait dans l'orthodoxie russe, il y en a, on en a signalé quelques personnes qui sont authentiquement révulsées par ce qui se passe, mais ça risque de rester plutôt des refus individuels.
Voilà. Bon, ça c'était le point de vue de l'orthodoxie bulgare. Alors,
Je commence. Je dis ça en riant. Madame, sur l'écologie, je disais le rapport du GIEC qui est sorti hier soir est un rapport assez alarmiste parce que ce que montre ce rapport, c'est que si on n'accélère pas les politiques de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, on va aller pour la fin du siècle vers une augmentation de la température qui sera de 3,5 degrés. Donc on est très loin de l'objectif qui consiste à ramener l'augmentation à 1,5 degré. On est en dehors de l'épure, là, clairement. Et donc le GIEC dit qu'il faut que tout le monde fasse un effort. Alors c'est les économies d'énergie, c'est améliorer ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Alors c'est le nucléaire. Si vous voulez, une des conséquences, on en parlait avant l'Ukraine, mais pour nous Français, une des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est conforter un peu, la relance du nucléaire. Pour les Allemands, c'est conforter la relance des énergies renouvelables, même si, je répète, à court terme, les Allemands sont en train de relancer leur centrale à charbon qui émettent beaucoup de CO2. Et c'est là où il peut y avoir, dans le cheminement, des conséquences négatives pour les objectifs écologiques. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, sans rentrer dans les détails. Et monsieur, sur la Chine, on est bien d'accord. Je disais au fond tout à l'heure, je ne l'ai pas explicité comme vous l'avez fait, mais quand je dis, je pense que la convergence sino-russe est circonstancielle, c'est qu'effectivement, les Chinois, ils préfèrent la stabilité, le commerce, et pour l'instant, tout ça, ça fait quand même, au-delà du drame humain, ça fait très désordre. Et donc, les Chinois, ils vont privilégier ce qui marche. S'entendre pour les Chinois avec la Russie à court terme, c'est aussi une manière d'envoyer un message aux Américains. Et donc derrière tout ce qu'on a dit, je dis ça parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais derrière tout ça, pour comprendre l'entente de court terme, à mon avis, entre les Chinois et les Russes, il y a la mésentente entre la Chine et les États-Unis, qui, elle, ne paraît pas circonstancielle, puisqu'elle dure depuis longtemps et elle risque de durer encore un certain temps.
Alors, Frédéric Ramel avait commencé par évoquer les images et le rôle des images dans la mobilisation de l'opinion publique. Et donc, il y a une question sur le rôle de l'information, cette fois-ci, et de la mobilisation de l'opinion par le biais de cette information et éventuellement des images, d'ailleurs.
Ce qui est intéressant, c'est que les grandes guerres depuis 2001 sont des guerres expéditionnaires au milieu des populations. Il faut conquérir les cœurs et les esprits. Poutine fait exactement la même chose dans une configuration de guerre classique, de guerre interétatique, utilisant des fake news, utilisant tous les réseaux sociaux, utilisant, et je pense qu'il faut faire extrêmement attention aussi aux pièges du wokisme et des éléments culturels aussi qui viennent télescoper le stratégique avec un manque total de nuances en disant, sanctions, on n'a pas parlé de cette dimension culturelle des sanctions. On sanctionne toute la production culturelle russe et ça fait le jeu de Poutine. Je prends un tout petit exemple, la Maestra, vous connaissez peut-être ce grand concours pour les chefs, les femmes chefs d'orchestre. La première tournée s'est faite à Katowice, un grand concert. Pulcinella de Stravinsky a été annulée. Stravinsky, l'opposant majeur à l'Union soviétique, qui a eu la nationalité française et américaine, et qui, en plus, pour Pulcinella, est une œuvre pas du tout d'inspiration russe, mais de la musique italienne du baroque. On arrive parfois à marcher sur la tête. C'est-à-dire que cette dimension culturelle dans les conflits apparaît au prisme de la volonté aussi de jouer opinion publique contre opinion publique. C'est comment il faut faire plus de nuances, quoi, et travailler à décortiquer, déconstruire et montrer que, en tout cas sur le plan culturel, il ne faut pas confondre un certain nombre de choses. Et puis peut-être juste une micro-parenthèse sur la dimension écologique. Je pense aussi que ce que donne à voir la guerre en Ukraine, et plus largement si on la relie au Covid, c'est nos vulnérabilités réciproques. Toutes nos sécurités, elles sont entrelacées. Question, on parlait justement des effets du charbon dans le contexte de la guerre en Ukraine. On ne peut plus aujourd'hui décorréler les insécurités. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin immensément de coopération. Le grand sociologue Bauman disait on a le choix entre coopérer ou les fosses communes. Je pense que là, on est au pied du mur.
Voilà, pendant la Première Guerre mondiale, Debussy et Ravel se battaient pour qu'on ne joue plus de musique allemande en France. Ce n'est hélas pas très nouveau. Voilà, mais écoutez, merci infiniment à Christian de Voissieu et Frédéric Ramel pour cette somme d'informations et de réflexions qu'ils nous ont apportées ce soir et qui éclairent vraiment de façon très aiguë la réalité de ce que nous sommes en train de vivre. Je vous rappelle que vous avez à la sortie les urnes traditionnelles, vous en aurez d'autres dimanche prochain, mais celle-là c'est pour contribuer à l'organisation de nos soirées des mardis d'éthique publique. Et puis le prochain mardi est fixé le 3 mai et il est fort probable que nous parlerons des élections présidentielles.